Bonsoir Félicité Herzog, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors du coup, vous venez nous présenter votre deuxième roman intitulé Gratis. J'aimerais pour commencer que vous nous présentiez ce roman, la façon dont vous l'avez pensé, dont vous l'avez écrit et pourquoi cette thématique de la finance que l'on retrouve très peu dans la littérature française. Donc j'aimerais vous entendre pour introduire nos propos sur la naissance, la genèse de ce roman.
D'accord. Merci beaucoup de votre accueil. Je suis ravie d'être ici. Je connaissais très peu Bordeaux. Je n'étais jamais venue chez Mola parce que évidemment, j'ai été qu'une seule fois à Bordeaux dans ma vie. Donc je suis ravie d'être ici. En fait, le cœur du roman, c'est une idée utopique. C'est une société que j'ai imaginée, une société énorme, mondiale, comme on connaît tous les Facebook, les Google de ce monde, qui proposeraient à ses clients, de changer de vie complètement, de mourir virtuellement et d'organiser leur transfert dans une nouvelle vie. Et ça, cette entreprise, elle s'appelle New Birth. Et elle est à la fois dans l'avenir, mais elle est dans un avenir très, très, très proche. C'est un petit peu pour parler de notre présent qui semble futuriste, mais enfin qui se dessine sous nos yeux. Et donc, j'ai inventé cette société parce que je voulais décrire l'itinéraire d'un très, très grand inventeur, entrepreneur. Je suis assez fascinée par ces personnages du monde économique qui, en fait, sont des quasi hommes politiques, les Mark Zuckerberg, les Warren Buffett, les Steve Jobs, les Xavier Niel, les Patrick Drahi. Et tous ces gens-là, en fait, j'avais envie de comprendre ce qui se passait dans leur tête. Et comment est-ce qu'on les formait, quelles étaient les embûches, les déboires qu'ils connaissaient, pourquoi est-ce qu'ils devenaient soudain des gourous pour un très grand nombre de gens. Et je suis fascinée par ça parce qu'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, il y a ce personnage du grand entrepreneur qui n'existait pas vraiment autrefois. Évidemment, il y avait les Michelin, il y avait des grands entrepreneurs français, mais pas des empereurs mondiaux. Or, pas des gens qui, comme aujourd'hui, modèlent notre société, ont une incidence énorme sur nos modes de vie, transforment notre manière même de dialoguer ou de communiquer. Ça, c'est complètement nouveau. Et d'ailleurs, je lisais cet après-midi dans le train tout un document sur ces grandes sociétés qui se comparent aujourd'hui aux États. Elles ont dépassé complètement l'échelle d'une société normale. Elles se comparent au PNB du Danemark. C'est absolument fascinant. Et donc, évidemment, ce n'est pas un livre économique, mais c'est un roman qui porte quand même là-dessus. Et évidemment, comment j'ai fait pour avoir cette idée, j'ai passé une très grande partie de ma vie dans le monde financier, dans le monde de l'investissement, à Londres, à New York, à Paris, et j'avais assez envie de raconter comment est-ce qu'on fabrique des gens comme ça, comment est-ce qu'on les fabrique et qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête et dans leur cœur. Et donc, toute la première moitié du livre, mais on y reviendra, porte là-dessus, sur l'apprentissage d'un grand entrepreneur. Et puis ensuite, on y viendra, c'est l'entreprise New Birth dont je vous ai parlé au début.
Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est l'importance de la narration, parce qu'on est dans une narration qui est double. On a à la fois la voix d'Ali Tarak, qui est donc cet entrepreneur qui s'est fait tout seul. Et on a un narrateur, semble-t-il omniscient, qui va donner une version différente, ou en tout cas améliorée, de la version de Tarak. Et je voulais du coup vous interroger sur ce choix d'une double narration, comme ça, en alternance, dans le roman.
En fait, je voulais un petit peu reprendre une structure à la Citizen Kane. Tout le monde se souvient de ce film, où on alterne une confession. Donc, on est à la fin de sa vie. Il a le rosebud qui lui glisse des mains et il revient sur son enfance, sur son éducation et sur son ascension. Et j'ai repris un petit peu cette structure pour ce roman de quelqu'un qui est en fait à la fin de sa vie, qui va mourir et qui revient et qui refait tout le film de sa vie. Et c'est vrai qu'il y a à la fois ces moments de confession et puis il y a un narrateur qui décrit une intrigue, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ce roman. Ça survole quand même une très longue période de temps, puisque ça démarre au début des années 90 et ça finit dans les années 2020.
Et du coup, c'est aussi intéressant de se demander comment vous êtes mise dans la peau de ce narrateur de ce personnage, Alita Rack. C'est comment on fait parler un homme quand on est une femme. Je trouve ça toujours fascinant, de ce choix du coup d'écrivain de parler au nom d'un autre sexe. C'est assez fascinant. Je voudrais vous entendre parler du coup de cette façon dont vous êtes mis dans la peau du personnage.
Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est les passages où je suis sur... j'emploie le jeu. Donc je me mets à sa place et j'essaye de comprendre sa colère ou son ambition ou sa... ou même il tombe fou amoureux d'une beauté russe. Comment est-ce qu'il peut composer avec ça? Et c'est vrai que quand on est une femme, c'est vrai que c'est un voyage de faire ça. Mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant. Mais dans mon métier, je travaille beaucoup avec des hommes. Alors peut-être que ça aide de comprendre. Je suis persuadée qu'il y a une sorte de perméabilité. J'ai eu dans mon métier, c'est vrai que 95% des gens sont des hommes. Donc,
oui, on y reviendra voilà. D'ailleurs. Et vous parlez donc du coup de ce personnage de jeune femme russe, c'est Selena dans le roman, et elle amène une dimension, me semble-t-il, tout à fait différente et un autre univers, parce qu'on a ce monde, si je puis dire, de requins de la finance, et à côté, on a un autre monde de requins qui est celui de la mode, car Selena est mannequin. Et du coup, je voulais vous entendre aussi parler de ce monde-là, parce qu'on est, face à un personnage qui est devenu une star. On parlait justement du statut privilégié des nouveaux entrepreneurs qui maintenant ont une vie qui est complètement starisée.
Voilà, oui.
Et donc, c'est intéressant de voir ces deux milieux s'imbriquer, ce milieu people, ce milieu de la mode et ce milieu de la finance. Pourquoi, du coup, pourquoi avoir pensé ce personnage de Lena?
Parce qu'en fait, c'est un portrait de société. Dans la première moitié du roman, c'est vraiment une description de la société des années 90-2000. Toute cette période qui a connu des ascensions fulgurantes, qui, en fait, essentiellement parce que les marchés financiers permettent des valorisations énormes, permettent des financements stupéfiants. Et donc, on a des gens qui arrivent très, très, très haut, très, très, très vite, et qui peuvent aussi descendre aussi rapidement. Et dans ce portrait, disons, des années 90-2000, très souvent, quelle est la place des femmes dans ces mondes-là? Elle est assez représentative du type de femme que ce type d'homme regarde. Alors, sans tomber dans la caricature, comme on est en Europe, dans ce roman, je parle beaucoup de l'Europe, on est après la chute du mur de Berlin, les frontières de l'Europe de l'Est s'ouvrent, et évidemment, il y a ce flot de jeunes femmes de l'autre côté du rideau de fer qui rêvent de venir en Europe et devenir des femmes libres. Et puis évidemment, très souvent, elles se heurtent à une réalité très différente. Et ça aussi, j'ai beaucoup vu ça dans ma vie. Enfin, j'ai beaucoup vu ça, je l'ai beaucoup expérimenté parce que j'ai assisté à l'arrivée de beaucoup de ces gens et j'étais frappée de voir la manière dont des très jeunes femmes se retrouvent dans ces milieux de la mode, deviennent toutes complètement anorexiques. Et je trouvais que c'était un couple assez, assez typique, disons, de ces années-là. Voilà.
D'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans la première partie du roman, lorsqu'elle rencontre Tarak lors d'un dîner, Léna lui dit que son souhait le plus cher, c'est, je cite, « être une femme responsable de son sort ». Et on se rend compte au fur et à mesure que ce n'est pas si évident que ça, donc dans ces années 90-2000, mais que ça ne sera pas non plus dans un futur proche qui est évoqué dans la deuxième partie du roman. Et on peut s'interroger sur la place de la femme dans ce monde, à travers le personnage de Léna, à travers le personnage aussi de Jiao, qui est une des collaboratrices de Tarak. Et je voulais donc du coup vous entendre sur cette place de la femme. On a vraiment l'impression qu'il y a une sorte de constat qui dit que dans un futur proche, même donc dans ces années 2020-2030 qui sont à l'orée du roman, la situation ne change pas tant.
Oui, mais vous avez raison. Moi, je porte un regard très critique. Hein. Je trouve que la société d'aujourd'hui, malgré beaucoup de prospérité, beaucoup de croissance, n'a pas produit des effets libérateurs pour, par exemple, pour les femmes. Et sans tomber dans la caricature, et bien sûr, il y a eu beaucoup de choses positives. Mais entre des femmes qui sont des objets et qui sont chosifiées par l'univers qui fait de nous des mannequins en puissance, et des femmes qui se battent dans le monde professionnel mais qui n'arrivent pas à s'imposer ou au prix d'une très grande dureté. Ça, c'est le deuxième personnage qui s'appelle Zhao Morgan, qui est une chinoise, enfin immigrée en France et qui réussit très brillamment dans la finance. C'est vrai que c'est assez... C'est pas un portrait très... c'est un portrait assez critique de ce que c'est que les femmes aujourd'hui dans ces univers-là.
Oui, et puis c'est une femme... Jiao, c'est une femme qui réussit parce qu'un homme l'a bien voulu. Ouais. Elle est toujours sous le joug de quelqu'un, ouais. Que ce soit celle-ci.
Elle est toujours
début,
dans une suggestion.
Tarak ensuite. Ouais. Vous dites bien qu'elle est totalement presque soumise à Tarak et à ses faits et gestes,
ouais.
Notamment dans la deuxième partie.
Ouais.
On est vraiment dans un...
Souvent, vous savez, dans ces grandes entreprises, où c'est tellement difficile que la plupart de ces profils féminins sont souvent très assujettis, oui. Ça, en tout cas, dans ces années-là, c'était particulièrement frappant.
Ce qui peut être aussi intéressant à travers ces personnages-là que l'on retrouve de la première à la deuxième partie, bon, Jiao notamment, le personnage de Celsius qui est ce grand financier, c'est aussi de montrer que ce roman traverse les générations, si je puis dire. On est vraiment dans un roman où on va retrouver les personnages comme ça, et ça va permettre, ce que vous disiez, de montrer des éléments marquants d'une époque. Et je trouve qu'on a vraiment un portrait assez prenant de chaque époque. Et je voulais savoir comment vous avez travaillé ce futur proche, comment vous êtes projeté, en fait.
Alors, parce que c'est difficile. Je vais essayer d'expliquer, parce que quand même, c'est un livre où il y a quatre personnages,
oui,
principaux. Et comme on passe de la réalité à quand même un monde, une société utopique, je vais quand même essayer de raconter. Il y a le personnage central qui s'appelle Ali Tarak, qui est un Français issu de l'immigration et qui se lance dans qui crée une start-up dans les années 90, qui va à Londres et qui trouve beaucoup d'argent et qui rencontre tout ce monde de l'investissement qui le fabrique. Et puis, qui rencontre un homme qui va être une sorte de père spirituel, qui s'appelle Adrian Celsius, qui est un grand investisseur, type Warren Buffett, type un certain nombre de ce type de personnes, bon, une sorte de ponte de l'investissement, et qui le soutient, qui le propulse, et qui est celui qui lui tendra la main quand le pauvre Tarak est laminé par un crash boursier. C'est lui qui le récupère, c'est lui qui l'aide à se remettre en selle. Et c'est un personnage très... Celsius est un personnage très, très, très classique dans l'univers anglo-saxon, de ces grands financiers qui deviennent des philanthropes, qui veulent consacrer une grande partie de leur fortune aux autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très marquant aussi aujourd'hui. Vous avez aux États-Unis beaucoup de gens qui ont décidé de donner la moitié de leur fortune, ou voire toute leur fortune,
on pense à Bill Gates,
à des œuvres caritatives ou des fondations, Gates, enfin tous. C'est quand même un phénomène fascinant. Ils ont fait quelque chose qui s'appelle le Giving Pledge, où ils ont décidé qu'après leur mort, ils allaient donner quand même tout leur patrimoine, une très grosse partie de leur patrimoine. Et ça, j'ai trouvé ça absolument fascinant, parce que c'est tout à fait paradoxal pour des gens qui se sont battus pour gagner très bien leur vie. Donc ça, je raconte, c'est la caractéristique de ce financier qui donc soutient Ali Tarak. Et puis, vous avez donc deux personnages féminins. Léna, qui est russe et qui connaît un destin un petit peu difficile et qui est la femme que Tarak aime, très jeune femme. Et puis, vous avez Jao Morgan, donc on l'a dit, qui travaille avec Celsius et qui décide de changer qui progressivement va passer du côté d'Ali Tarak dans sa nouvelle entreprise et qui est une femme très déterminée, très travailleuse, très ambitieuse, mais qui devient un peu une machine, quoi. Enfin, jusqu'à un moment où elle se révèle plus humaine qu'on ne l'aurait pensé.
Et c'est très marquant dans le roman, et ça l'est encore plus quand vous en parlez. On se rend compte qu'il y a dans le roman de multiples nationalités. On parle de Léna qui est russe, de Jao qui est d'origine chinoise. Et les personnages en parlent, d'ailleurs, Tarak en parle dans la première partie, du fait qu'on est tous immigrés, on vient tous de quelque part d'ailleurs. Et pourquoi avoir pris le parti de ces multiples nationalités ?
En fait, c'est un roman sur la mondialisation. Et oui, tout le monde, sauf Rupert Hart, oui, dans ce roman, est un immigré, a bougé, a été formé dans un pays, puis à travailler dans un autre. Oui, c'est très 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 éloquent sur notre société contemporaine, le fait qu'elle est traversée par des gens qui sont chassés de leur pays. Par exemple, Jao Morgan, ses parents ont été chassés par les Khmers. Celsius, lui, il est beaucoup plus âgé, mais après la guerre, il passe de la Suède aux États-Unis. En fait, ce n'est pas un parti pris, c'est simplement que dans cet univers-là, à nouveau, c'est quand même très cosmopolite. Les gens bougent sans arrêt d'un pays à un autre. Et c'est vrai que ça peut peut-être être déroutant, je ne me rends pas compte.
Non, ce n'est pas déroutant. Par contre, c'est très intéressant de voir la multiplicité des nationalités. En plus, dans la fin de la première partie, on est à l'orée de ce que sera l'Europe actuelle. Donc, en plus, c'est intéressant de voir que la première partie se passe à Londres et que cette Europe arrive en Angleterre, alors que l'Angleterre ne se souvient pas forcément de cette Europe. Donc, c'est quand même très intéressant de voir la multiplicité des nationalités comme ça, ces personnages.
Mais c'est une peinture. Alors, toute la deuxième, en fait, la deuxième partie, donc, qui voit l'éclosion de cette société qui s'appelle New Birth, qui permet aux gens de pouvoir changer de vie comme ils veulent. Par exemple, quelqu'un qui aurait été travailler toute sa vie, je ne sais pas, comme médecin, et puis qui aurait décidé de devenir artiste, qui aurait voulu changer entièrement d'existence. Et qui soudain fait face à une société qui permet ça, qui dispose des moyens d'état civil pour réaliser son rêve. Et ça, cette société, elle est à la fois complètement loufoque, parce que franchement, qui peut imaginer aujourd'hui de faire une chose pareille ? Et puis en même temps, c'est troublant parce que c'est assez plausible, c'est devenu plausible. Il y a 10 ans, je pense que j'aurais jamais pu écrire ce livre. Et aujourd'hui, c'est évidemment inconcevable, parce qu'aucun pays ne va accepter qu'une société vous fasse un faux enterrement ou une fausse mort et puis vous permette d'aller, je sais pas, d'aller vivre en Jamaïque et de faire de la musique, si c'était ça votre rêve. Mais aujourd'hui, c'est imaginable parce que on est continuellement face à des sociétés qui ont une emprise énorme sur nos vies. Et donc ça, c'est ce que vous dites, c'est une peinture de la société d'aujourd'hui. Elle est un peu futuriste, mais elle n'est pas si futuriste que ça, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les États démissionnent complètement, n'arrivent pas à faire face aux flux migratoires, que l'espérance de vie est tellement longue qu'on ne sait plus quoi faire de nos vies, qu'on est prêt à tout pour se libérer de conditions, de la donne de départ. Et New Birth permet de renverser et de redistribuer les cartes. Donc évidemment, c'est une utopie, mais on pourrait imaginer que demain, ce service serait accessible sur Internet. Je suis persuadée qu'il y aurait des gens qui souscriraient.
Oui, donc là, on en vient du coup à la deuxième partie du roman, et c'est intéressant d'expliquer New Birth. C'est quand même une société qui est acceptée par l'État, qui en fait pleinement...
C'est une société totalement diabolique, il faut dire ce qu'il y a. C'est une société qui vous propose de manière très ingénue de bazarder votre passé. En fait, c'est d'inspiration orwellienne. C'est une entreprise, c'est un État dans une entreprise, c'est une entreprise-État qui se dessine et qui arrive à séduire un très grand nombre de gens. Et puis, je fais l'hypothèse que ça devient quelque chose qui devient très très populaire, parce que quand on vit, on sait qu'à la fin, au milieu du 21e siècle, on aura dépassé les 100 ans, nos enfants. Pas vous, parce que vous êtes trop jeune, mais nos enfants vont vivre 100 ans. Et qu'est-ce qu'on fait pendant 100 ans dans la même vie, avec la même famille, avec le même métier? Comment est-ce qu'on peut faire pour changer intégralement d'existence? Et ben, c'est ça le défi qui est lancé par cette société. Et à partir de cette idée, il a fallu tirer sur tous les fils. Et curieusement, on peut imaginer que ça prendra place. Et évidemment, je raconte, grâce à ce concept que j'ai appelé le concept de la transition, qui permet donc de changer de vie, je raconte qu'est-ce que devient Alita Rack, qu'est-ce que devient Jao Morgan, donc tous les personnages de la première moitié. En fait, je les suis sur la deuxième, et il y a toute une intrigue. Voilà, donc...
Oui, d'ailleurs, il y a une phrase du narrateur qui est assez éloquente. Il dit « Dorénavant, lorsque quelqu'un mourait, on ne pouvait jamais être certain qu'il n'avait pas tout simplement transitionné. »
Voilà. Donc il y a une sorte de doute qui s'installe sur quelque chose d'aussi
c'est une mainmise, en
fondamental fait. Que la mort. Même la mort devient une source de business, en fait. Et c'est à la fois fou, mais c'est pas si impossible.
Non. C'est particulier, parce qu'on est dans une société du coup où personne ne meurt vraiment, mais dans une société où personne ne vit vraiment non plus, parce que du moins n'a une vie libre, si je puis dire, dans le sens où tout est régi par New Birth.
Voilà, mais ça devient une proposition totalitaire, parce qu'au début, c'est un service sur Internet qui permet effectivement de basculer complètement de vie. Et puis, comme ça a beaucoup de succès, les États démissionnent, ils sont d'accord pour qu'un très grand nombre de gens le fassent. Et puis finalement, ça devient une société à part entière. Et vous avez des cités de la transition. Et tout ça, évidemment, est servi par des algorithmes qui permettent de définir quelle est la meilleure composition sociale d'une cité. Et donc, vous avez une sorte de, oui, d'État dans l'État. Et évidemment, ça finit plus ou moins bien, quoi.
Oui, et puis on est vraiment dans cette société qui crée du besoin aussi, un peu comme on a aujourd'hui dans la société de consommation, cette idée de une envie, un besoin qui tout de suite va être assouvi, où on n'a plus ce sentiment de frustration, plus ce sentiment de choix, d'erreur. On est vraiment dans...
Non, mais c'est évidemment pousser la logique de l'algorithme qui, aujourd'hui, qui est déjà très présent dans les choix que nous faisons sur Internet, puisque tout ce que nous faisons, d'ailleurs pas seulement sur Internet, dès qu'on prend la moindre péage d'autoroute ou achat ou voyage, enfin nos faits et gestes sont absolument tracés à la loupe. Et ce sera, on peut imaginer que très rapidement, cette puissance de l'algorithme et du big data, c'était un sous-produit du big data, va totalement nous libérer de notre libre arbitre. En fait, on ne fera plus de choix. Et à un moment, évidemment, au paroxysme de cette idée de transition et de cette société, quand elle est très puissante, les transitionnés, puisqu'ils s'appellent les transitionnés, ne prennent plus la moindre décision. Les choses s'imposent à eux. Le choix de leurs vacances, l'éducation de leurs enfants, la manière dont ils régulent, dont ils s'occupent de leur maison.
Ça s'immisce même jusque dans le couple.
Voilà, donc ça devient quelque chose de totalement totalitaire. Et franchement, c'est un cri d'alerte parce que à la fois, ça semble très loin, mais très sincèrement, c'est pas si loin que ça.
C'est pas si utopique que ça.
Je parlais il n'y a pas très longtemps à un médecin qui s'occupe d'une commission ou qui fait partie d'une commission qui gère les informations qui ont trait à la santé des gens, de nous. Et il me disait, mais c'est terrible, parce que en fait, on sait énormément de choses. Et la réalité, c'est que nous ne nous rendons pas compte que nous donnons des données qui sont... on ne sait pas d'ailleurs complètement comment elles seront exploitées. Et aujourd'hui, le législateur est évidemment largement derrière. Il n'arrive pas du tout à légiférer de manière intelligente et mesurée sur ces sujets-là. Donc le danger, il est tout à fait réel. Alors évidemment, il est très 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 romancé dans ce roman. Je vous rassure, c'est pas du tout un livre technique, mais c'est quand même un scénario quand même assez épouvantable. Et si on avait un régime politique ou un qui voulait se servir de l'ensemble de ces données, ça pourrait être très dangereux sur le plan social et politique. Voilà, donc oui, c'était aussi un des sujets de ce roman, c'est de dire attention, parce qu'on va tout droit dedans, et franchement, même les politiques sont assez peu conscients. Et c'est pour ça que je l'ai appelé gratis, parce que c'est... quand on voit la définition du mot gratis, moi, ça m'a fasciné, ce mot qui veut dire à la fois sans prix, léger, bénévole, et en même temps vain, inutile. Enfin, c'est un mot à plusieurs sens. Et voilà, c'est toujours agréable. Évidemment, c'est une proposition agréable et c'est pas une escroquerie, mais on joue complètement sur les mots et sur la proposition. Et regardez, quand on voit nos enfants et petits-enfants qui sont le nez sur un iPhone et un iPad à longueur de journée, eux, la chose la plus poignante, c'est qu'aujourd'hui, ces entreprises savent absolument tout d'eux. Et ils auront en plus le recul sur des années. Mais surtout, le sujet, c'est qu'on a le sentiment que tout ça est gratuit et que nous sommes en contrôle, et très sincèrement, on l'est pas du tout, et on sera de moins en moins.
Mais d'ailleurs, quand on y pense, tous ces réseaux sociaux sont des réseaux gratuits, oui, où on donne des tonnes de données personnelles, oui, qui peuvent être suivies.
Et malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière.
Chose très bête, chose très actuelle, je regardais l'actualité tout à l'heure, Facebook vient de lancer quand même... Un nouveau système, si je puis dire, qui permet de gérer sa rupture amoureuse grâce à Facebook.
Ah bon,
c'est sorti aujourd'hui.
Ah, j'ai pas vu ça.
Donc c'est vraiment... du coup, j'ai souri parce que j'ai pensé au livre, j'ai pensé à ce soir, et je me suis dit, on y est. Quoi.
Ah ouais, on y est.
On y est totalement.
On est complètement phagocyté par ces...
C'est très actuel.
Et en plus, le sujet, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière. Parce que maintenant, d'abord, les usages, on est hyper habitué à ça, on est hyper dépendant. Et on peut freiner, mais les pouvoirs politiques ont tellement peur de limiter, parce que c'est une source de croissance, parce que tout le monde, les individus le veulent. Ils le veulent, ce que vous dites, c'est tellement juste, c'est une servitude acceptée. Nous le voulons, mais on se jette dans la gueule du loup.
C'est intéressant de revenir sur ce débat, ça tombe bien, parce que je voulais y revenir. New Birth, fonctionne presque du coup comme une secte surpuissante. Vous parliez de quelque chose de totalement démiurgique à l'instant. C'est vrai qu'on a l'impression que Tarak, cet entrepreneur, veut devenir un dieu parmi les hommes. D'ailleurs, oui. À un moment, on a une de ses phrases où il dit en substance qu'il écrase le monde dans sa main. On a une autre phrase où on entend que son génie était de promouvoir auprès des êtres humains une libération cathartique de la vie terrestre. On a vraiment cette idée de toute puissance, de transcendance qui est assez impressionnante.
Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, quand on parle à, par exemple, mettons Zuckerberg ou un autre, jamais dans l'histoire de l'humanité, sauf peut-être dans l'Antiquité, il y a eu des gens aussi jeunes avec un tel pouvoir, et un pouvoir universel. Ce n'est pas simplement sur un pays ou une entreprise. C'est des gens, ce qu'ils font, Facebook, je ne sais plus combien, ça a passé le seuil du milliard, et c'est juste freiné par la capacité, la bande passante. Mais donc, on fait face à des gens ce sont des personnages complètement nouveaux. On n'a jamais fait face à ça. Des gens qui, d'un claquement de doigts, ils peuvent changer la face du monde. Et en fait, j'ai exploité ça, cette idée de ce type qui est une sorte d'empereur en t-shirt. Enfin, c'est très paradoxal, parce qu'ils sont habillés comme des ados, attardés, tous. Quand on va dans la Silicon Valley, il est impensable d'avoir une veste. Tout le monde est en survêtement, quoi. Mais ce qui m'a fasciné, la seule période qui peut m'évoquer une telle puissance d'un individu, c'est l'Antiquité. Et quand j'avais relu il n'y a pas quelques années les mémoires d'Adrien, mais c'est, pour moi, c'est, alors évidemment c'est autre chose, et puis Adrien n'est pas fou. Mais il y a cet aspect du dieu.
Oui, du dieu. Il le dit clairement, ouais, d'ailleurs, Adrien, qui se sentait dieu parmi les hommes.
Ouais,
c'est
voilà,
dit c'est très
ça.
Clairement dans les mémoires.
Et ben, ça a beaucoup, ça a vraiment inspiré toute la deuxième partie. Disons que dans l'emprise et le côté impérial, ouais, la dimension d'empire, je suis frappée de voir en tout cas le parallèle qu'on peut faire avec ces sociétés de l'Antiquité. Non seulement parce que ce sont des empereurs, en fait ce sont des empereurs ces gens, on n'en parle pas comme ça, mais ce sont des empereurs, mais aussi parce qu'il y a des inégalités très 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 importantes entre les pays, entre les régions, entre les gens, et qu'aujourd'hui on fait face, hélas, avec toutes les conséquences atroces qu'on voit. On est dans une société d'inégalités absolues, enfin on n'a jamais connu des différences de revenus et de situation et d'accès à l'éducation, à la santé aussi important. Et c'est incroyable ce que l'Antiquité a. Pour moi, ça a été une source d'inspiration, en tout cas.
Mais on est vraiment dans un personnage qui, en plus d'être un empereur, est un gourou. Moi, tout de suite, j'ai eu l'image de ces sectes qu'on voit beaucoup dans les reportages aux États-Unis, où on a vraiment cette figure très représentative avec un millier de fidèles.
Oui, mais on ne le voit pas. En même temps, on ne le voit pas parce qu'il, souvenez-vous, il est à Jersey, son siège social est à Jersey. Alors, je connais l'île de Jersey un petit peu. Alors, j'ai été pour le roman, pour bien le décrire, j'ai été là-bas. Et je connaissais un tout petit peu. Mais c'est un endroit un peu particulier, Jersey, parce que c'est un peu... c'est un endroit étrange. C'est un endroit étrange qui est devenu une sorte de petit Singapour. J'étais absolument... Il y a tout l'univers du custody, c'est bourré de financiers, vous avez plein de jeunes qui vont travailler là-bas. Alors c'est très étrange, c'est une petite société... c'est un port, autrefois c'était très charmant. Aujourd'hui, c'est charmant, mais enfin il y a des banques partout et des avocats. Et vous savez ce qu'ils font, vous savez ce que c'est que le custody, il faut simuler... une vie de société pour prétendre avoir les avantages fiscaux de l'offshore. Et c'est tellement étrange de voir tous ces gens arriver par avion. Et à l'heure actuelle, c'est le cas. C'est quand même à 10 km des côtes françaises. Hein. C'est fascinant. Des centaines de milliards d'euros sont gérés de là. Donc, je trouvais que c'était intéressant d'avoir le siège de cette société-là. Alors après, j'ai imaginé un campus énorme.
C'est vraiment une ville dans la ville.
C'était une ville dans la ville. Et puis lui, il est connu, mais on ne le voit jamais. Donc, il sait gérer le secret. Et puis, il est traumatisé par sa première expérience. Et donc, il ne se met pas en avant. Mais du coup, ça rend ces sociétés d'autant plus inquiétantes parce qu'elles ne sont plus incarnées, en fait.
Mais c'est ce dieu dont tout le monde parle, mais que personne n'a jamais
vu.
C'est vraiment un personnage fascinant pour ça. Et un passage du livre, moi, qui m'a beaucoup troublée, c'est à la présentation de New Birth. Du coup, on a toute une série de slogans qui sont bien définis ici. Et on a l'exigence est la clé, qui dit jeu en vous, seuls les paranoïaques survivront. Moi, tout de suite, j'ai vraiment pensé à ce côté très, très sectaire.
Oui, mais vous savez, quand vous allez chez Facebook, j'ai été dans la Silicon Valley et j'ai pu rentrer dans leur forteresse. C'est super difficile d'y avoir accès parce qu'il faut signer un accord de confidentialité électronique dès qu'on franchit le seuil. Et puis, il faut avoir de bonnes raisons d'y être invité, que ce soit eux ou Google, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment des forteresses. Et à l'intérieur de Facebook, alors, ils sont tous en t-shirt, il y a des piscines, des terrains de jeu. Enfin, c'est un côté très, très campus. Donc, des ados qui veulent régir le monde et qui sont très bons, qui sont des têtes, qui sont des grands ingénieurs. Et sur les murs, partout dans Facebook, donc c'est des hangars avec des centaines de gens qui travaillent, il y a des slogans. Alors, quand je suis rentrée là, j'ai pris une photo, je me disais, je n'y croyais pas. Il y avait des slogans partout sur les murs. Et évidemment, pour nous, Européens, le slogan, c'est quand même un truc... aux États-Unis, ça passe très facilement, mais... Donc j'ai repris, alors j'ai détourné certains de ces slogans naturellement, mais ça m'a fascinée de voir ça. En tout cas, je ne sais pas si ce seront des ennemis. Dans le livre, ça devient très, très franchement une société totalement épouvantable. Hein. J'espère bien qu'elle ne verra jamais le jour, j'espère. Ce qui guide, je pense, ces sociétés, c'est... Ils le disent, c'est fascinant. Il faut lire les entretiens de Sergey Brin, qui a créé Google. Il dit Google n'est pas fait pour gagner de l'argent. Nous, ce que nous voulons, c'est faire des découvertes et c'est changer le monde. Ils le disent, noir sur blanc. C'est fascinant. D'ailleurs, ça pose un problème pour Google, parce que Wall Street et toute l'industrie du financement... Bon, les actionnaires de Google, ils veulent quand même voir des dividendes tomber. Mais eux, le management, les fondateurs, ils le disent. Ils disent, c'est pas ça notre objectif. Alors bon, ça, évidemment, gagner beaucoup d'argent leur permet de faire des investissements partout, dans la biotech, dans des choses complètement différentes, dans la recherche médicale. Vous savez qu'on maintenant, on va avoir des lentilles qui mesurent la glycémie à distance et qui permet d'autoréguler l'insuline, c'est par exemple une application, ou alors les lunettes, etc. Mais ces gens-là, je crois qu'ils sont, ce sont des inventeurs et en même temps c'est formidable parce que il y aura aussi des choses très très positives à attendre de ça, mais simplement il faut savoir comment est-ce qu'on protège nos droits individuels, nos libertés. C'est ça qui est vraiment très, très angoissant. Surtout dans une société qui a peur du terrorisme et qui va tout boucler et qui permet d'avoir un État qui s'immisce beaucoup plus dans la vie des gens. Ça, c'est, je pense, un problème quand même d'actualité.
Une dernière chose, du coup, pour conclure, on a... Ce roman plein d'utopie, est-ce que ce ne serait pas plutôt un roman dystopique au sens où on est dans un, dans une société où on est censé apporter à tout prix le bonheur à la population qui, du coup, transitionne, parce que c'est le terme. Là, au contraire, j'ai vraiment l'impression, et j'aimerais savoir si vous considérez qu'on peut mettre, si je puis dire, l'étiquette sur le roman d'un roman dystopique, étant donné que on est là dans un roman, une fiction où on est amené à être face à une contre-utopie, étant donné que cette société imaginaire empêche les membres d'atteindre le bonheur.
Vous avez absolument raison. C'est une dystopie totale. C'est une utopie, j'espère pas prémonitoire, mais en tout cas c'est une dystopie et c'est surtout l'échec. Parce qu'il veut sauver, le monde, Alita Arc. Hein. Au début, il est plein de générosité, enfin de générosité, il a une ambition très haute. Simplement, il se fait prendre à son propre jeu. Alors après, je raconte comment est-ce que dans une entreprise, un chef d'entreprise s'enferme dans une tour d'ivoire avec le fameux Bernard Jack Souris qui est un petit peu l'âme damnée de Tarak. Et puis, donc, au lieu de suivre une évolution positive, en fait, ça devient quelque chose de... Voilà, une catastrophe, quoi. Donc, c'est une dystopie.
Très bien. J'ai la réponse à ma question. Messieurs, dames, on va conclure, puisque Madame Herzog a un avion.